Bonjour, c'est Déborah de Cœur à Corps, bienvenue dans le podcast qui questionne nos relations, notre rapport à l'amour, la sexualité et au genre. Pour ce nouvel épisode, je donne la parole à deux mamans, Lucie et Océane, qui ont donné naissance il y a 3 ans à Naël après une PMA. Avec elles, on a parlé de PMA bien sûr, mais aussi de la question des représentations, du regard de la société, de leur parentalité, de leur relation avec leur enfant mais aussi leurs proches, du rôle de la mère sociale, c'est-à-dire la maman qui n'a pas porté l'enfant, de l'adoption, de leur joie et de leurs difficultés. Bonne écoute! Bonjour Lucie et Océane, donc merci de participer au podcast Cœur à Corps.
Bonjour Déborah.
Alors, pour commencer, donc on va revenir un peu sur votre parcours de maman et de votre histoire de famille homoparentale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, alors brièvement, un peu votre histoire, votre rencontre, et puis à quel moment vous avez eu envie de faire un bébé et désirer un enfant ?
Bah écoute, on s'est rencontrés il y a bientôt 5 ans maintenant. Comme beaucoup de couples de notre génération, en fait, on s'est rencontrés sur Mythique, c'est pas très glam. On s'est rencontrés sur Mythique alors que moi j'étais en école militaire et que en fait il y avait 700 km d'écart entre l'école où j'étais et là où Lucie habitait. On s'est parlé longuement par message. Bon, après je l'ai eu par téléphone, j'ai vite découvert le bel accent nordiste que ma future femme aurait, c'était assez sympa. Et puis en fait on s'est vu au bout d'une 15aine de jours. À partir de là, on s'est plus jamais lâché, en fait. C'est-à-dire que 2 mois après notre rencontre, j'ai terminé mon école militaire et j'ai été affectée dans l'est de la France, soit à 600 km de là où Lucie vivait. Et elle a tout lâché pour moi. Elle a rompu son contrat, elle est venue vivre avec moi. Et en fait, on a très vite voulu avoir un enfant. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est installé définitivement au mois d'octobre 2016 ensemble. En novembre, j'ai appelé le CHR à Liège, qui était l'hôpital le plus proche en Belgique, et on a eu le premier rendez-vous pour janvier de l'année suivante. Hein. Ça a été très très vite. Je pense qu'on a très vite parlé d'avoir un enfant ensemble.
On a très vite parlé, et puis en fait, ce qui s'était aussi passé, c'est que voilà, on s'était rencontrés toutes les deux à quand même une bonne petite vingtaine d'années, où ça faisait quelques années, chacune de notre côté, l'envie d'avoir un enfant était bien présente. Donc forcément, comme on peut parler de coup de foudre, la réponse a vite été amenée jusqu'à nous, assez naturellement, de se dire qu'on voulait un enfant ensemble. Après, on était aussi resté sur une idée qu'on avait autour de nous, en fait, de dire qu'il y avait une liste d'attente, parfois même de plusieurs années, pour avoir un enfant. Donc, j'avoue que je me rappellerai toujours le jour où Océane m'a appelée. Moi, j'étais au travail, hein, je suis éducatrice, donc voilà. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, je viens d'avoir Liège au téléphone et on a rendez-vous dans 2 mois. Et là, je lui dis, pardon, dans 2 mois, mais c'est pas possible. On nous a dit qu'il y avait des années d'attente parfois. Elle me dit, non, on commence dans 2 mois. Donc, c'est vrai qu'on a été un peu prise, pas forcément au dépourvu, mais c'était pas le délai qu'on envisageait dès le départ. Mais pour autant, ça nous a pas fait peur parce que, on était tellement sûrs de nous deux qu'on s'est dit, au moins, on va vraiment y aller tranquillement dans ce projet de PMA qu'on va apprendre à découvrir. Parce que c'est vrai qu'on en entendait un petit peu parler autour de nous, mais on n'avait pas forcément de couple d'amis lesbiennes proches qui avaient eu ce parcours. Donc moi, j'avais contacté une connaissance qui venait de faire le parcours avec sa compagne, justement pour avoir un peu quelques infos, parce que finalement, on se rend compte que c'est très compliqué de trouver des informations précises sur des sites ou des forums. Et ça peut faire peur. Enfin, nous, il y a eu des moments où ça nous a fait peur. Et heureusement qu'on avait quelques connaissances qui avaient déjà eu ce parcours pour savoir un petit peu à quoi s'attendre et ne pas faire le grand plongeon dans l'inconnu.
Je pense que toute la difficulté, elle se situe aussi dans le fait que la Belgique est le pays qui accepte la PMA qui est le plus proche du nord de la France. Et le problème, c'est qu'en Belgique, il n'y a rien de normalisé au niveau national comme ça peut l'être chez nous. Chez nous, qu'on aille à Montpellier, à Paris ou à Marseille, la procédure est quasiment la même. Alors qu'en fait, là-bas, chaque hôpital a sa propre manière de fonctionner et peut imposer ses propres règles. Et du coup, ben, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas été au même endroit que vous, ben, ça peut être un parcours totalement différent.
Mais alors, quelles ont été vraiment vos premières réflexions? Et vous parliez de peur. C'était uniquement sur le parcours de PMA. Est-ce qu'il y avait d'autres réflexions qui pouvaient ou d'autres questions que vous aviez justement à ce moment-là sur le fait d'avoir un enfant à naître dans un couple homosexuel?
C'était pas forcément des inquiétudes propres au couple homosexuel. Après, c'était les inquiétudes comme tous les futurs parents qui accueillent le premier bébé. Plus de savoir, est-ce qu'on va être à la hauteur, est-ce qu'on va savoir gérer, mais on n'a pas eu de crainte spécifique par rapport au fait qu'on soit deux femmes. On n'avait pas la peur de se dire mince, il y aura pas le facteur papa comme dans la plupart des familles qu'on connaît autour de nous en plus. À la limite, la question qui est très vite venue, c'est de se dire pour nous, c'était totalement logique d'avoir un enfant et qu'on allait savoir s'en occuper parce que voilà, on arrivait à se rassurer quand même comme tout le monde, hein, en disant qu'il n'y a pas de raison, qu'on allait faire en tout cas notre maximum pour notre enfant qui allait naître. C'était plus de se dire il va falloir aussi peut-être trouver des associations ou autres avec d'autres parents gays pour montrer à notre fils que c'est pas le seul. Parce que du coup, dans notre entourage proche, on est le seul couple homosexuel avec un enfant. Donc, c'était plus là-dessus la crainte que nous, vraiment, dans notre couple parental, d'avoir des difficultés par rapport à notre statut homosexuel.
Oui, en fait, c'était pas vraiment un problème au sein de la cellule familiale, mais plutôt comment on allait montrer à notre enfant que, en fait, sa situation, elle n'était pas plus différente que le copain qui serait à côté dans sa classe.
Alors, on parle justement de famille. Comment vous, votre famille, vos proches, ils ont accueilli votre désir de parentalité? Est-ce que ça a été bien accepté?
L'avantage qu'on a eu, c'est que toutes les deux, ça faisait quand même un sacré nombre d'années qu'on avait révélé notre homosexualité et qu'on a toujours assumé auprès de notre famille entière. Hein. Il n'y a pas des... Parce que ça arrive souvent, oui, mais il y a tellement de la famille qui ne le sait pas, on cache. Nous, pas du tout. Des deux côtés, ça faisait de nombreuses années que tout le monde était au fait de notre situation. Donc forcément, il n'y avait pas cet accueil déjà à devoir avoir de la part de nos familles. Nos deux familles étaient dans l'attente justement d'avoir ce petit enfant, puisque des deux côtés, il n'y avait pas encore petit enfant. Donc ça allait être vraiment le premier. Donc ils étaient vraiment très impatients. Et c'est vrai que quelque part, c'est une difficulté de moins qu'on a eue, hein, c'est qu'on avait vraiment toute la famille autour de nous qui attendait impatiemment que le parcours PMA porte ses fruits et puis que je sois enceinte. Et limite, c'était peut-être même un peu trop.
En fait, au moment où on a fait le premier parcours PMA avec Naël, ça n'a pas été dérangeant pour nous sur le moment parce qu'on s'est senti vraiment soutenu et on s'est dit que s'il y avait des difficultés, on se rendait compte que chacune de nos familles était là. Et puis, 3 ans plus tard, on se rend compte que finalement, on n'a pas eu de recul par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, on a un peu cette impression que le parcours, on l'a fait à 10, quoi, parce que chacun venait y mettre son petit grain de sel et puis tout le monde savait quand on allait en Belgique et tout le monde savait quand on avait fait une insémination et tout le monde attendait avec autant d'impatience que nous le résultat des tests de grossesse alors que dans un couple hétéro je pense que on va pas aller dire on a eu un rapport sexuel hier soir dans le but d'avoir un enfant je ferai un test dans quelques semaines quoi. C'est pas tout à fait ça quoi. Et puis en même temps on a vraiment tout expliqué à nos familles et pourtant on se rend compte aujourd'hui que il y a des choses qui sont à des années-lumière de comprendre ce qu'on a pu vivre et des fois on a l'impression de réexpliquer plusieurs fois et que ils comprennent pas la difficulté dans laquelle on a pu être
tout le parcours médical ouais. En fait les hormones ils ont pas compris quel impact ça avait sur le quotidien le plus pris conscience, en fait, ça a été moi, mes collègues de travail qui le disent encore en rigolant souvent. Ils me disaient, Lucie, c'était une pile, mais oh là là, on te suivait plus et tu passais par toutes les humeurs et c'était terrible les journées avec toi, mais voilà, on t'en voulait pas parce que ben on savait que t'étais sous hormones et c'était fatigant, enfin vraiment fatigant moralement. Physiquement ça allait en soi parce que voilà la piqûre d'hormones moi me gênait pas. Après je peux entendre que ça puisse gêner certaines femmes hein. Tout le monde n'a pas le même rapport à la piqûre. Moi j'avais cette chance de pas avoir un rapport compliqué à la piqûre. Mais après ben c'est aussi toute une contrainte parce que du coup la dizaine de jours approximative où on doit se piquer tous les soirs avec ses hormones, ben c'est à la même heure, donc c'est aussi tenir informé tout le cadre professionnel pour demander l'accord de venir avec ses hormones, d'avoir une pièce spéciale pour se piquer. Quand on est invité quelque part, bah, c'est prendre la petite pochette avec le pain de glace pour se piquer à la même heure, peu importe où on est. Donc des fois, bah, on refuse des invitations, des fois on revoit un peu nos plans. Donc voilà, il y a quand même toute cette contrainte-là finalement. C'est ça, c'est un peu lourd. Après, c'est clairement, on a appris en fait avec un peu de recul, en côtoyant de plus en plus de couples de femmes, ou en ayant tout simplement des couples d'amis qui ont eu un parcours après nous, mais dans d'autres hôpitaux, qu'en fait, c'est pas un passage obligatoire, les hormones. Mais en tout cas, nous, on a été pour la PMA à Liège, même si tout va bien d'après les nombreux examens à faire avant de démarrer vraiment le parcours PMA, ils donnent toujours un minimum d'hormones. Pour donner en fait un maximum de chance.
Comment vous avez choisi la maman qui porterait l'enfant ?
Ça a été d'une logique imparable, alors que pourtant c'est moi la plus âgée sur les deux. Ça nous a paru d'une logique mais vraiment à toutes les deux, que ce soit Lucie qui porte la première. Déjà parce que je pense qu'elle en avait beaucoup plus envie que moi. Alors on avait autant envie d'un enfant, mais elle avait beaucoup plus envie que moi de porter un enfant. Donc on s'est tout naturellement, en fait je pense que à aucun moment on s'est réellement posé pour se dire laquelle de nous va porter, c'était naturel, c'était elle qui allait porter notre enfant, c'était logique pour nous.
J'ai pu lire qu'il y avait certaines femmes qui se sentent hors la loi à aller dans des cliniques à l'étranger. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors pas du tout. En fait moi je parlerais pas de se sentir dans l'illégalité parce que en tout cas nous ça n'a pas du tout été notre ressenti. Par contre nous le ressenti ça a été vraiment de pointer cette inégalité. Pointer cette inégalité où déjà entre guillemets ben on a dû fuir notre pays pour avoir un pays qui a accepté de nous donner la chance d'avoir un enfant. Donc c'est pas forcément simple hein, et ça nous renvoie un peu à l'image que la France peut avoir par rapport à toute cette problématique autour de l'homosexualité hein. De toute façon hein, on est encore en plein débat aujourd'hui hein, donc c'est pas pour rien.
Pardon, mais est-ce que c'est cher une PMA?
Oui, c'est cher. C'est cher et en fait clairement la PMA à l'époque l'acte médical plus la paillette de sperme, il y a 3 ans, c'était 600 euros. À ça, on peut rajouter les frais de route et puis généralement la nuit à l'hôtel la veille parce que forcément, pour être à 7h30 à l'hôpital, sachant qu'il y avait à peu près 3h30 de route. Nous, on a fait un parcours en plein hiver où il a neigé tout l'hiver, donc on prenait pas de risque, on partait directement le soir, même après nos postes à 22h30 s'il fallait. Et on l'a fait.
On l'a fait. Je suis passée de chercher au boulot.
Donc, du coup, on rajoute la nuit d'hôtel, on rajoute les frais de route. On est globalement à peu près 800 euros pour une insémination. Donc, on comprend qu'il y ait des couples de femmes qui disent mais nous on n'a pas les moyens et que après on part sur un autre type de PMA. Qu'on va appeler la PMA artisanale, forcément, hein, nous, on était au clair avec ces différents accès à la PMA. On voulait que nous, ils soient médicalisés et sécurisés quelque part, mais on peut comprendre qu'il y ait des femmes qui n'ont pas la possibilité financière de mettre 800 euros par insémination sans certitude que ça fonctionne et qui, du coup, vont s'orienter vers une PMA artisanale avec là, du coup,
C'est quoi une PMA artisanale?
Alors la PMA artisanale, en fait, ça va être il y a quelqu'un dans l'entourage qui va se proposer de faire un don, et puis ils vont le faire de chez eux sans qu'il y ait de rapport sexuel, hein, mais ils vont le faire de chez eux sans qu'il y ait de gynécologue, ni même forcément d'examens médicaux autour de tout ça. Après, la petite histoire, c'est que le gynéco qu'on a trouvé pour nous prescrire tout ça, parce que voilà, comme on s'est dit, il fallait que tout soit retranscrit par un gynécologue français, il nous a regardé au deuxième rendez-vous et il me dit, mais pourquoi vous avez payé en Belgique? J'ai trouvé la question très bête, je regarde, je dis, mais on n'a pas le choix, enfin, si on veut que ce soit médicalisé, on doit forcément aller en Belgique ou en Espagne. Et il me dit, mais moi, vous auriez pu voir avec moi, on aurait fait une commande via les sites internet qui existent de banque de sperme, et moi, l'insémination, je vous la faisais. Hein. Et en fait, là, on se dit que c'est là qu'on a découvert qu'il y avait peut-être encore d'autres possibilités en France, mais bah voilà, faut tomber dessus, parce que effectivement, il existe aussi des banques de sperme en ligne, où en fait, on commande son donneur qui reste anonyme, mais selon des critères physiques, et où le sperme est envoyé directement aux personnes.
Et pardon, enfin, je connais pas assez le sujet, mais ça compliquerait pas davantage pour les procédures après de reconnaissance de l'enfant ?
Non, pas du tout, en fait, parce que tout simplement, là, par exemple, dans notre cas et dans le cas de toutes celles qui font un parcours PMA avec un donneur anonyme, on n'a pas l'identité du donneur. Donc, à partir de là, quand l'enfant naît, il est reconnu que par la mère biologique. Donc moi j'ai été déclarée Naël à sa naissance. Il était né, enfin sur son acte de naissance, il est né de sa mère Lucie et de père inconnu. Et le droit belge et c'est aussi pour ça qu'on était passé par un parcours officiel entre guillemets reconnaît le fait que en fait ces donneurs n'ont aucun droit. Et c'est le cas pour toutes les banques de sperme qui se trouvent dans les pays qui sont plus au nord que le nôtre, où en fait tous les hommes qui font des dons pour ces banques de sperme signent des conventions au départ où ils acceptent en fait de renier tous les droits qu'ils pourraient avoir sur les progénitures qu'ils vont engendrer via leur don.
D'accord.
Donc ça, les seuls où ça pourrait engendrer un problème, c'est les PMA où on a en gros un ami qui donne pour nous. Parce que là, par contre, lui, il pourra aller reconnaître l'enfant ou même plus tard en fait. Parce que là, il est connu et il sait que c'est cette mère-là qui a porté son enfant biologique. Là, ça peut poser un problème.
Ok. Alors. On a donc parlé un petit peu PMA, mais c'était pas un des sujets très intéressants dont on peut discuter ensemble. Je voulais aussi voir avec vous sur la question des représentations. Alors aujourd'hui, votre petit garçon, il a 3 ans, donc c'est Naël. Êtes-vous souvent confronté à des regards désapprobateurs ou des commentaires injurieux quand vous êtes en famille, au supermarché, à l'école ou que sais-je, quand vous vous promenez?
Bah en fait, enfin moi non, on n'a pas ce ressenti-là. Enfin moi ni même Océane, hein, on n'a pas ce ressenti-là. Limite, on avait peut-être plus de regards portés sur nous en fait en tant que couple avant qu'on ait Naël, parce que oui très souvent ça arrivait que quand on se balade main dans la main comme beaucoup de couples, on avait des regards très lourds. On n'a jamais eu de réflexion, mais on avait des regards très 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 lourds. Qu'aujourd'hui je ressens plus. Alors peut-être qu'ils sont encore là, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas, on est tellement au-dessus de tout ça, je pense aujourd'hui, qu'on n'y prête pas attention, tout simplement. On n'a jamais eu de réflexion directement sur notre famille vis-à-vis Naël ou autre. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est pas quelque chose qui s'est présenté à nous, et tant mieux, j'ai envie de dire. Maintenant, on sait que ça peut arriver, hein. Mais là, Naël, même depuis septembre, est rentrée à l'école. Et en fait, on a une école privée catholique avec une pédagogie très très intéressante qui a un peu d'inspiration Montessori. Et du coup, voilà, pour nous, c'est vraiment une évidence qu'il aille dans cette école. Sauf que le gros problème, c'était le côté catholique. Où en fait, nous, on élève Naël dans une ambiance totalement happé, même les baptêmes, il n'a pas eu de baptême religieux, on a été un peu contre la vie familiale de tout le monde, et limite c'est ça qui a posé le plus de problèmes dans la famille, ça. C'est qu'on ait osé ne pas faire de baptême religieux, mais qu'on a fait un baptême civil. Voilà, c'était vraiment ce côté religion qui me bloquait. Et puis bon bah on a fait le premier rendez-vous avec la directrice, et puis quand elle a montré tous les projets qui étaient mis en place, etc., ça a été encore une fois une évidence de se dire oui bon bah c'est tout, c'est là qu'il faut aller. Surtout que voilà, Naël c'est un petit garçon qui est plein de vie, avec des humeurs très 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 intenses. On savait qu'il fallait quelque chose qui soit vraiment adapté à lui pour qu'il puisse s'épanouir et trouver sa place, et c'était vraiment notre priorité. Donc, on est passé un peu au-delà du côté catholique. On m'a quand même parlé avec la directrice, hein, en disant voilà, on vous l'a pas caché, on est un couple de femmes. Comment ça peut être perçu dans votre école, sachant que c'est une toute petite école, ils sont 60 enfants, pas plus. Et tout de suite, elle nous a dit ah non non, mais vous inquiétez pas. Effectivement, vous êtes le seul couple homosexuel qu'on a eu dans cette école et qu'on a actuellement. Mais enfin, pour moi, il n'y a aucun problème. Et sachez que si jamais un jour on devait entendre même nous des réflexions ou autres, on n'hésitera pas à remettre les gens à leur place. Ici, tout le monde a sa place. Donc très tolérante. Et du coup, bah aujourd'hui, ça se confirme parce que on y va ensemble à l'école, on participe à tous les petits temps qu'on peut qui sont organisés malgré ce contexte bien particulier avec le Covid. Et jusque-là, on n'a jamais eu un regard plus désapprobateur ou une réflexion de la part d'une autre famille. Naël le crie haut et fort dans toute la cour qu'il a deux mamans. C'est d'ailleurs ce que la maîtresse nous a dit un jour quand on l'a récupéré. Hein, elle nous a dit, vous savez, ici, toute l'école est au courant que Naël a deux mamans. Enfin, il le dit à tout le monde, il est super fier. Enfin, il y a zéro problème pour lui de ce côté-là. Donc, pour le moment, c'est plutôt réussi. Maintenant, on n'est pas dupes. Hein, les difficultés arriveront à un moment donné. Hein, de toute façon, alors nous, oui... on est un couple de mamans, et puis bah, si on avait été une autre famille, bah, il y aurait peut-être une autre problématique qui aurait pu gêner Naël à un moment donné. Mais pour le moment, on savoure un peu ce bonheur et cette tranquillité qui coule de source, on va dire.
Alors, est-ce que justement, votre enfant Naël, est-ce qu'il a déjà posé la question malgré tout de pourquoi il n'a pas de papa ?
Il n'a pas eu le temps de la poser parce qu'en fait, Naël, depuis vraiment ses premières heures de vie, on lui a expliqué son parcours. Donc ça peut paraître bête pour certains parents, mais nous on est très réceptives à tout ça, et on a été accompagnés par des sages-femmes, par des mamas allaitantes, un peu les doulas qu'on pourrait trouver en France, et c'était vraiment un bel accompagnement. Et elle nous avait conseillé justement de beaucoup parler à Naël par rapport à notre parcours, à ce qu'on avait pu vivre, comment on l'avait vécu, de où il venait. Et c'était pas propre à nous, notre couple de mamans. Hein, c'était vraiment un conseil qu'elles font à tous les parents. Et du coup, Naël, dès le départ, on lui a toujours expliqué de manière très naturelle, en fait, parce qu'aujourd'hui, il a 3 ans. Et on a toujours adapté le discours au fur et à mesure. Le discours aujourd'hui, il est de dire, oui, Naël, tu as été porté par qui? Alors, il sait dire maintenant, par maman Lulu, d'accord. Comment tu es venu là? C'est un monsieur, il a donné la petite graine, d'accord. Est-ce que tu vas pouvoir connaître ce monsieur un jour? Non, je vais pas pouvoir, parce qu'on a beaucoup insisté aussi sur l'anonymat de ce monsieur. Ça c'est quelque chose voilà qui nous tient à cœur. On veut être au clair avec lui. Et aujourd'hui on est plutôt contente de voir qu'à 3 ans, quand on lui pose des questions, il sait y répondre sans qu'on ait besoin de souffler quoi que ce soit. Il sait d'où il vient. Par contre, si on lui pose la question devant les grands-parents ou autres, il va pas vouloir y répondre. Pourquoi? Je pense qu'il perçoit déjà que c'est vraiment son histoire intime, familiale, et que c'est une histoire qui nous unit tous les trois, et il va pas avoir envie d'y répondre, il va partir à autre chose, alors que quand il est qu'avec nous, il est plus qu'au clair là-dessus.
Ouais, la seule chose qu'il va dire en public, en gros, c'est, même avec notre famille proche, hein, il va juste répondre « j'ai pas de papa, moi j'ai 2 mamans ». Et c'est tout. Il va pas s'éterniser sur sa conception, etc. Alors que c'est vrai qu'il la connaît, et on a encore testé il y a pas longtemps. Il a pas envie d'en parler devant tout le monde.
Alors est-ce que il vous appelle différemment, ou est-ce qu'il répondait à toutes les deux à maman?
Alors on s'est posé la question. On s'est dit Est-ce qu'on trouve un petit surnom dès le départ? Donc, on a essayé plein de surnoms. Je ne pourrais même plus les sortir. On a essayé
dans toutes les langues, je crois.
Et en fait, il n'y a rien qui tiltait. Et puis, au fur et à mesure que la grossesse va arriver à son terme, hein, on a fini par se dire « Non, mais on arrête les prises de tête. Hein. » De toute façon, on est toutes les deux ses mamans. Donc, ben, il va nous appeler maman. Puis alors, quand on a décidé qu'il allait nous appeler maman toutes les deux, en tout cas que nous, on parlerait nous en disant maman, autour de nous, on disait, bah oui, mais bon, comment il va faire, du coup, si c'est toutes les deux pareilles, c'est compliqué. Et en fait, on avait toujours dit, bah, c'est compliqué, non, le jour où il en aura marre d'appeler maman et que c'est pas la bonne maman qui répond à son interrogation, bah, il trouvera par lui-même la solution. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand Naël a acquis la parole et les premiers mamans, ben en fait très vite, il m'a appelé maman Lulu. Bon, faut savoir que Lulu, le diminutif de mon prénom, c'est bien celui que je détestais plus que tout, hein, mais j'ai pas eu le choix que de l'accepter. Donc voilà. Et puis pour Océane, c'était maman. Alors des fois on raccourcit, on disait maman OC, et en fait c'est resté maman C. Et encore aujourd'hui, alors qu'il sait dire Océane, ça reste maman C et maman Lulu. Voilà.
Très bien. Bon, il a trouvé tout seul.
C'est ça. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Bah, de toute façon, à part, enfin, je pense que le côté très positif de ce petit garçon, c'est qu'il s'adapte énormément à beaucoup de choses. Bon, on a déménagé alors qu'il avait, quel âge n'avait quand on a déménagé, un an et demi? Enfin, il a déménagé alors qu'il avait un an et demi, enfin, il est toujours collé à nous, c'est-à-dire que depuis qu'il est tout petit, il est en porte-bébé sur nous et on l'emmène absolument partout. Il s'adapte à tout et il trouve des solutions aussi lui-même à tout et à tout ce qu'on fait.
Alors, vous me disiez en préparant cet entretien, pardon, que donc la deuxième maman, Océane, donc celle qui n'a pas porté, donc Océane, tu as adopté donc ton fils. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on adopte son enfant? Est-ce que et quelque part, est-ce que c'est un peu difficile d'être la maman dite sociale?
Alors, au sein de mon couple, pas du tout. J'ai toujours eu une confiance extrême en Lucie et je savais que quoi qu'il arrive, même si on arrivait à se séparer, par exemple, hein, parce que voilà, on n'exclut pas que ça puisse arriver. Je savais que même si on se séparait avant que l'adoption soit prononcée, j'aurais jamais de problème avec Lucie et qu'elle m'enlèverait jamais mon fils. Mais la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, les mères sociales, elles peuvent se retrouver dans cette situation où la mère biologique part avec l'enfant et elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus aucun droit. Et c'est une longue bataille juridique qui commence pour pouvoir avoir le droit de voir ses enfants. Et là, on ne parle pas des batailles juridiques que peuvent avoir les pères. On parle vraiment d'une bataille juridique où on n'a aucun droit et on n'est pas du tout reconnu par le droit français. Et au-delà de ça, moi, je me sentais plutôt en difficulté par rapport au fait que si j'emmenais Naël à l'hôpital, par exemple, parce que Lucie travaillait et que c'était moi qui l'avais à la maison et qui pouvait avoir un problème, eh ben, j'aurais pu être confrontée à des personnels de santé qui refusent que Naël soit soigné tant que Lucie n'arrivait pas, puisque en fait, il faut l'autorité parentale présente pour faire des actes médicaux sur des enfants. Alors j'ai de la chance parce que il est arrivé qu'on doive amener Naël à l'hôpital. On a toujours été à deux et ça a jamais posé de problème au niveau des hôpitaux. J'ai pu rester avec Naël dormir sur place sans Lucie. J'ai pu ça a pas du tout posé de problème. Par contre, moi, j'avais vraiment peur qu'il arrive quelque chose à Lucie. C'est-à-dire que si malheureusement Lucie était décédée avant que l'adoption soit prononcée, ben en fait les tuteurs légaux de mon enfant auraient été mes beaux-parents. Et je m'entends très bien avec eux, ça aurait été une toute autre difficulté puisque je n'aurais plus eu le droit d'adopter mon fils, puisqu'on doit adopter l'enfant du vivant du parent biologique. Donc pour moi ça a été un peu compliqué par rapport à ça parce que je me disais que finalement si je perdais ma femme, je perdais ma famille complète, donc je perdais ma femme et mon fils. Et pour moi c'était assez compliqué à vivre. Et puis au-delà de ça, on a déjà vécu tout un parcours de PMA, c'est déjà très c'est intrusif, c'est compliqué, il faut le supporter de bout en bout. Et puis une fois qu'on finit celui-là, on en redémarre un autre où là c'est encore plus intrusif puisque pour le parcours de l'adoption, c'est long. Il fallait
qu'on se marie.
Naël, officiellement, je suis légalement sa mère depuis septembre cette année, enfin septembre 2020, alors qu'il est né en février 2018.
Oui, donc un an et demi.
Ouais, c'est ça. Après, nous, on a une situation particulière, c'est parce que il faut absolument, dans le droit français, il faut absolument que le couple soit marié pour que la mère d'intention puisse faire une demande d'adoption. Et nous, on l'était pas. Et on a pris, j'ai eu une mutation géographique par rapport à mon boulot qui nous a obligés à décaler, nos intentions de se marier. Du coup, on s'est mariés seulement en mars 2019.
Alors, j'ai lu que dans le projet de loi sur la PMA, il y avait un nouveau mode de filiation qui serait mis en place pour les enfants nés par PMA de couples de femmes. Donc, les femmes concernées devraient établir devant le notaire une reconnaissance conjointe de l'enfant avant sa naissance. Donc, plus question pour la femme qui n'a pas porté l'enfant de devoir suivre une procédure d'adoption. Ça va dans le bon sens selon toi, selon vous ?
Bah, le bon sens, alors, ça simplifie.
Ouais.
Ça simplifie la démarche qu'on a aujourd'hui à faire quand on est dite mère sociale pour adopter son enfant. Par contre, on reste toujours sur cette inégalité.
Bah bien sûr, puisque en fait un acte notarié reste un acte notarié, que ce soit pour l'adoption ou que ce soit pour une reconnaissance préalable. Dans tous les cas, il va falloir que ce couple de femmes ait les moyens financiers de pouvoir faire ce type de reconnaissance. Pour information, les actes notariés pour l'adoption de Naël, ça nous a coûté 550 €. C'est pas rien. Et puis pourquoi la mère d'intention n'aurait-elle pas le droit, tout simplement, d'aller reconnaître son enfant au même titre qu'un père? Parce que, à ce que je sache, le père qui va aller reconnaître son enfant, il ne va pas avec un test de paternité. Donc, il n'a pas à prouver qu'il est le père biologique.
C'est d'ailleurs ce qui se passe de toute façon dans les PMA pour les couples hétérosexuels où il y a un don de sperme. En fait, l'enfant ne peut jamais avoir accès à cette information d'un donneur inconnu, parce qu'un couple hétérosexuel est dans le droit, et dans son droit en tout cas, de cacher cette vérité biologique à son enfant,
bien sûr.
Donc elle est là, l'illégalité aujourd'hui. Et en fait, c'est là où je pense que beaucoup de couples de femmes et les associations LGBT+ aujourd'hui se battent, même si on peut entendre dire, bah oui, mais les choses elles bougent. Oui, les choses elles bougent, mais en gardant toujours cette inégalité. Et nous, ce qu'on demande à un moment donné, c'est de dire stop à ces inégalités. Est-ce que les hétérosexuels ont droit? Bah, que les homosexuels puissent aussi y avoir le droit. Je pense pas qu'il y ait une parentalité qui doit être plus reconnue parce que c'est un homme et qu'on du coup directement on va dire que c'est le père, alors que la deuxième mère est tout autant impliquée dans le projet bébé du début à la fin et est aussi la deuxième mère. Enfin, nous, ça a tellement été naturel pour nous qu'on soit les deux mamans et pour nos familles aussi, parce que finalement on a la famille proche, beaucoup ne savaient pas que Océane devait adopter. Et c'est là où ils se sont révoltés. Ça a été assez drôle. C'est là où ils se sont révoltés de se dire, mais c'est scandaleux, mais comment ça tu dois l'adopter, mais t'as fait tout le parcours PMA avec Lucie, mais t'es sa mère. Et c'est là, en fait, où la révolte, elle a eu lieu parce que, ça les a touchés de près, je pense, de voir que, nous qui étions les deux mamans de Naël aux yeux de tout le monde, non, en fait, c'était pas fini, quoi. Océane, elle devait maintenant faire ce parcours-là avec nous toujours pour être reconnue la mère de Naël.
Il a quand même fallu que je fasse une lettre au procureur de la République pour lui expliquer pourquoi je voulais adopter mon propre fils. Donc, c'est quand même assez difficile de dire qu'il faut que je rédige un écrit pour que une personne que je ne connais absolument pas puisse m'accorder le droit d'être légalement la mère de mon enfant, tout en sachant que le droit français lui accorde de refuser de m'accorder l'adoption sans donner une seule explication et sans aucun fondement légal. Il a parfaitement le droit de refuser une adoption et il devra même pas s'en expliquer, alors qu'il ne nous connaît absolument pas et que la seule chose qu'il va avoir de nous, c'est un dossier avec 3 actes légaux et une audition dans une gendarmerie pour savoir si j'ai les moyens financiers d'éduquer mon fils.
Alors, vous m'aviez confié aussi commencer peut-être à penser au deuxième enfant, mais c'était finalement c'était une envie qui n'a pas été si évidente ce coup-ci. Quelles sont les interrogations que vous êtes posées alors du coup avant de confirmer ce souhait?
Bah, on s'est posé beaucoup de questions déjà par rapport à notre équilibre familial. On a vraiment cet équilibre parfait, en tout cas qu'on jugeait parfait pour nous jusque maintenant avec uniquement Naël. Comme j'ai pu l'évoquer, on a un petit garçon qui a des besoins particuliers, en tout cas auxquels nous on est sensible. Hein. Il y a peut-être d'autres parents qui seraient moins sensibles, mais nous on y est sensible et on a vraiment envie de répondre à ses besoins. Et du coup, on n'était pas du tout disponible pour pouvoir faire un deuxième enfant et en tout cas lui donner autant qu'à Naël. C'était vraiment pas le bon timing. Donc même si on en parlait, on se disait oui, non, c'est pas le moment. Non, on va pas savoir gérer. Pour le moment, Naël a encore trop besoin de nous. C'est vraiment pas là tout de suite qu'il faut y penser. Puis après est tombé du coup tout ce contexte très anxiogène autour du Covid encore une fois ça nous a aussi fait réfléchir sur le monde de demain. Faut savoir que cette réflexion on l'a déjà depuis un moment et on se disait oh là là le monde il va vraiment de plus en plus mal, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, est-ce qu'il faut vraiment faire un deuxième enfant. On partait vraiment dans plein de réflexions qui étaient assez poussées. On en parlait beaucoup autour de nous avec certains couples d'amis, dont certains partageaient pas du tout cette conception des choses, et au contraire d'autres étaient aussi là-dedans. Et puis, alors pourquoi je ne sais pas, mais il y a eu un moment donné où il y a quelques mois maintenant, on a eu ce déclic où on était prêts. Alors, je pense que Naël y a beaucoup contribué aussi, parce que il a commencé à beaucoup réclamer un petit frère ou une petite sœur. Donc déjà là, je pense que ça nous a rassurés en se disant ça y est, Naël commence aussi un peu à donner le feu vert en disant j'aimerais bien accueillir quelqu'un dans la famille. Donc ça a été une réflexion, on en a beaucoup parlé, on a un peu tâté le terrain aussi avec Naël, même si voilà, il a que 3 ans, mais pas encore, hein, mais bientôt. Et qui peut pas tout comprendre, mais il comprend beaucoup de choses déjà. Et on voulait vraiment insister avec lui en lui disant, mais parce qu'en fait Naël, il nous demandait tous les jours un petit frère ou une petite sœur. Mais c'était un peu comme si qu'on pouvait aller l'acheter au magasin en fait, selon Naël. Donc il comprenait pas pourquoi là tout de suite c'était pas possible. Donc on a voulu aussi insister sur tout ce que ça impliquait derrière d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Ça a permis aussi de reprendre un peu de nouveau le parcours qui nous attend pour accueillir à nouveau un enfant dans notre famille. Donc ça a été aussi insisté là-dessus en disant à Naël, mais tu sais Naël, ça c'est long d'avoir un petit frère ou une petite sœur, on va devoir retourner à l'hôpital, on va devoir retourner pour avoir un monsieur qui voudra bien nous donner sa petite graine. Et du coup, la réflexion elle s'est mise en place tout doucement. À trois, toujours à trois, où cette fois-ci on a décidé d'en parler à quasiment personne, hein. On en a parlé seulement à deux couples d'amis proches de ce projet, on n'en a pas parlé à la famille volontairement et on le fera pas. On pense que Naël va peut-être vendre la mèche à un moment donné quand il viendra avec nous justement pour la première AC à Liège. Mais s'il en parle pas, tant mieux. Au moins, on pourra faire comme beaucoup de couples et puis attendre que le premier trimestre de grossesse soit quasiment fini pour annoncer que il y a un bébé 2 qui va arriver tout simplement. Et c'est aussi là la question s'est pas posée encore une fois. Par rapport à Naël, on s'était dit oh là là, ça va être une disponibilité encore qu'il va falloir trouver par rapport à notre travail. En plus maintenant, on a un enfant, donc c'est quand même une charge supplémentaire par rapport à l'organisation qui en plus est scolarisée. Et finalement, on a dit non, on va continuer de faire simplement les choses comme on l'a toujours fait. Et puis Naël, il va nous accompagner. Alors certes, il va pas m'accompagner dans la salle au moment de l'insémination, hein, même si il y a rien de fou. C'est juste que voilà, je pense que c'est pas non plus sa place. Par contre, je pense que c'est totalement sa place de venir avec nous à l'hôpital et en fait de voir le point de départ de son histoire. Et je me dis que ben ça va lui apporter encore plus de concret sur le parcours de comment il est arrivé dans nos vies. Et ça va être aussi la chance que ben il va peut-être pouvoir transmettre une partie de l'information là à BB2 dans quelques temps, parce que bon, par contre, clairement, la question du troisième se posera pas.
Non.
Donc voilà, ça s'imitera à BB2.
Deux, ce sera déjà bien.
Mais il pourra aussi transmettre lui à sa manière cette part de leur histoire familiale par la suite.
Très bien. Alors, on arrive à la fin de notre échange. Donc, j'avais une dernière question. Alors, on le voit, hein, la PMA, ça suscite beaucoup de controverses. La question de la famille homoparentale également, ça divise la société. Ça inquiète notamment sur la question de l'équilibre de l'enfance. C'est ce qu'on peut entendre toutefois. Alors, je voulais vous demander, en fait, qu'est-ce que toutes les deux, vous aimeriez dire à toutes les personnes qui pensent que cette évolution sociale, elle n'est pas bénéfique pour les enfants? Et notamment sur cette question de l'importance, bah, dans votre cas de figure bien sûr, de la figure masculine.
Bah, en fait, c'est quand même assez compliqué psychologiquement de toujours devoir essayer d'apporter des arguments et des justifications pour expliquer qui on est et tenter de se faire accepter par des personnes qui sont totalement réfractaires, alors que j'estime en fait que personne devrait avoir à le faire. Chacun est libre de vivre comme il a envie à partir du moment où c'est dans le respect de tous. On demande rien à personne, hein, on est une famille des plus ordinaires qui puisse être. On travaille toutes les deux avec la difficulté sociale. Où on essaye d'aider les gens au mieux parce que c'est vraiment notre vocation et ça nous fait aussi réfléchir à dire qu'en fait la base de tout pour nous clairement c'est avoir juste un amour sain, équilibré et sincère en fait tout simplement, peu importe qu'ils viennent de deux femmes, de deux hommes, d'une seule maman, d'un seul papa ou même des grands-parents, enfin voilà, il y a tellement de configurations familiales, enfin ça peut être décliné à l'infini tout simplement. Nous on fait partie de cette génération finalement où on a énormément de monde de notre âge qui se sont retrouvés confrontés du jour au lendemain au divorce. On est je pense la génération des parents divorcés. Alors nous personnellement on a cette chance d'avoir nos deux parents, mais tout ça pour dire que dans ce cas précis, effectivement, ça peut être violent pour l'équilibre de l'enfant parce que l'enfant, il a connu un papa, il a connu une maman, et puis du jour au lendemain, il se retrouve avec un seul parent. Pour le peu que la séparation se passe très mal et que les enfants ne sont pas mis à l'abri de tout ça, il se retrouve qu'avec un seul parent. Je veux pas faire une généralité, mais malheureusement, on le sait, la plupart du temps, c'est se retrouver qu'avec maman et papa n'est plus existant, hein, même si ça existe aussi en sens inverse, attention. Et là, du coup, oui, là, il peut y avoir un danger pour l'équilibre de l'enfant, parce que l'enfant, il a connu ces deux personnes et que du jour au lendemain, on lui en retire une. Nous, Naël, dès le départ, il grandit avec deux mamans. Donc en fait, comment il pourrait manquer d'une figure paternelle alors qu'il ne l'a jamais connu? Moi, je pars du principe qu'on peut pas manquer de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc là-dessus, l'équilibre de Naël, pour moi, il va pas être mis en danger. Et puis, alors, si on estime qu'il faut nécessairement un homme et une femme, alors oui, bien sûr, il faut un homme pour faire un enfant. Attention, on est au clair là-dessus. On a toujours inclus cet homme inconnu dans notre histoire familiale. On le fera toujours. Et on en sera éternellement reconnaissante parce que c'est grâce à ce don qu'aujourd'hui on peut être une famille. Mais on n'est pas obligé d'avoir un homme et une femme pour faire une famille. C'est là la différence. Et si les personnes qui pensent encore aujourd'hui qu'il faut absolument un homme et une femme pour faire une famille, dans ces cas-là, il faut revoir beaucoup de systèmes familiales finalement qui sont dits non conventionnels pour les conservateurs. Moi, j'ai juste envie de dire... On vit pas dans une bulle arc-en-ciel, hein, faut se rassurer, hein, tout de suite. On vit comme eux dans un monde qui est parfois gris, qui est parfois bleu. Aujourd'hui, il est d'ailleurs blanc avec la belle neige qui tombe ici, avec des hommes, des femmes de tout horizon, et on fait grandir notre fils dans cette belle diversité humaine aux valeurs humanistes. Et c'est là-dedans que il va pouvoir y trouver sa richesse. Et qui va épuiser ce que bon lui semble, et il en fera ce qu'il souhaite, tout simplement.
Et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier que ce modèle, un papa, une maman, un homme, une femme, absolument, c'est une tradition qui est bien occidentale, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de pays dans le monde où les gens vivent en groupe et où ce sont uniquement les femmes qui élèvent les enfants. Les pères ne sont pas là pour ça. Les pères sont là pour d'autres missions au sein de la cellule familiale qui est géante chez eux d'ailleurs. Et ce sont les femmes qui élèvent les enfants. Et dans l'histoire occidentale, ça a longtemps été le cas aussi. Donc je pense que on en fait tout un pataquès aujourd'hui en se rendant qu'on est en train de faire une fracture dans la tradition. Mais en fait, si on remonte la tradition, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les nourrices et les femmes qui élevaient les enfants, et les pères n'étaient pas présents parce qu'ils avaient d'autres missions dans la cellule familiale. Donc je pense que c'est aussi parfois hypocrite de leur part.
Disons que je pense que ça renvoie aussi à la question des stéréotypes de genre et à des compétences et des qualités, des vertus qui seraient inhérentes à l'homme, et donc à la masculinité, à la virilité, et d'autres qui seraient transmises par la femme. Mais évidemment, on est dans une vision très binaire avec des notions de genre qui sont aussi très stéréotypées et très très genrées.
En fait, c'est juste qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui voudrait qu'on puisse mettre tous les individus dans une case. Et que tous les individus suivent exactement le même schéma, il faudrait pas être perdu, il faudrait pas sortir des sentiers battus parce qu'on n'est pas sûr de ce que ça va donner, parce qu'on peut avoir peur de ceci ou de cela. Et puis ça me fait rire quand certains disent « Ah oui, mais bon, si les homosexuels commencent à avoir des enfants, il va y avoir plein d'homosexuels. Mais rassurez-vous, hein, mes parents, ils sont hétéros. »
Ce que vous disiez, en tout cas, c'est que pour vous, en fait, ce qui était important, c'était de montrer que ça pouvait être une expérience vraiment positive, en fait, que ce soit dans l'aventure de la PMA malgré tout, dans le rapport avec la famille, dans la relation que vous avez créée avec votre enfant, et que finalement, c'était quelque chose qui était beau et qui était positif.
Mais bien sûr, c'est extrêmement positif. C'est un parcours de vie comme un autre. Et il va en tirer des richesses énormes, en fait, parce que notre fils aujourd'hui il va grandir dans une société qui est pleine de différences, et c'est beau la différence, et lui il fera partie de ces différences, et il pourra expliquer à tout le monde qu'en fait il vit totalement normalement, que voilà, il est un enfant comme les autres, et oui, il a deux mamans. Et bah peut-être que le copain dans la classe, il a seulement une maman, que il y a d'autres enfants qui auront vécu des drames familiaux aussi, et finalement lui il aura juste deux mamans qui l'aiment, et je pense que pour lui ça va juste être une corde de plus à son arc. Il faut pas penser que c'est une corde de moins, moi je pense qu'il faut penser que c'est une corde de plus. Plus ils ont d'expérience et plus ils ont de force et de richesse en eux, et Naël le montre déjà à 3 ans, parce que Naël à 3 ans, il est capable déjà de montrer que c'est bizarre de montrer du doigt la différence.
Ok, super. Mais écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour ce témoignage très intéressant, et on espère que ça fera peut-être évoluer ceux qui avaient encore des réserves ou des jugements sur tout ça. Et que ça peut-être fera du bien aussi à d'autres personnes qui vivent la même chose, et qui voilà, c'est toujours intéressant de partager les expériences.
Eh ben merci à toi pour cette opportunité. Et effectivement, je pense que voilà, nous en tout cas, si on l'a accepté, c'est plus justement pour d'autres couples de femmes qui pourraient encore être dans ce cheminement. Qui pourrait avoir peut-être un environnement autour d'elle qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément soutenant, et montrer que oui, c'est possible, et que il faut faire abstraction un peu des avis négatifs qu'on peut avoir autour de nous, et juste se donner cette chance d'être heureuse et de s'aimer tout simplement comme on a envie de le faire.
Super, ben merci beaucoup à toutes les deux. On embrasse aussi Naël, puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.
Cet épisode est maintenant terminé, mais vous pouvez retrouver les autres épisodes de Cœur à Corps sur toutes les plateformes d'écoute. Pour suivre les actualités du podcast, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram et la page Facebook de Cœur à Corps. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est très important pour m'aider à faire connaître le podcast. Et bien sûr, si vous adorez le contenu et si vous voulez m'aider à me développer, vous pouvez également contribuer à hauteur même de quelques euros à ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode de Cœur à Corps.